Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Florent Missy.
Salut à tous, il est 9h, vous êtes bien sur RMC, bon réveil et bienvenue à tous dans les grandes gueules du sport qui vous accompagnent jusqu'à midi, toujours dans la bonne humeur pour débattre et revenir sur toute l'actualité du week-end. J'ai le plaisir de vous accompagner encore une fois aujourd'hui, vous retrouverez Georges Quirino le week-end prochain de retour de vacances et a priori on l'espère en pleine forme. Mon bras droit est évidemment toujours là, tellement phare dans la nuit, il m'éclaire quand je m'égare.
Ah oui,
vous le réclamez tous les dimanches, Christophe Cessieu est là.
Comment mais pas le samedi par contre.
Non, pas le samedi, le samedi.
Juste vous le réclamez le dimanche.
Je suis la lune le samedi et le soleil de Flora le dimanche.
Exactement.
Comment ça, petite Flo?
Bah, ça va très
c'est bien.
Bien
là, t'as pris tes marques, ça y est.
Bah, écoute, ça va. On verra jusqu'à midi.
On va dégager le Quirino un peu là. Un peu la place aux filles quand même. Hein.
C'est moi pas mal. Power. Bah, ouais, écoute, moi, je suis plutôt contente d'être là avec vous et de passer cette matinée ensemble. Elle a délaissé son pull doré et scintillant aujourd'hui, mais elle va quand même nous éclairer et nous illuminer avec ses avis tranchés. Alizée Cornet. Salut,
bonjour.
Alizée.
Tous.
Tout va bien ?
En pleine forme.
Ouais. Toi, tu fais partie de ces gens qui sont en pleine forme dès 7h du matin ?
7h, je dors encore, mais dès que je me réveille, je suis en forme, ouais. Je me réveille à 8h45 à peu près pour l'émission. Donc,
ah oui, d'accord,
non,
t'es vite active, quoi.
Mais non.
Le jour où lui viendra, le jour où lui viendra avec un pull doré sur le plateau, on pourra se poser de vraies questions. Mais en tout cas, il vient comme toujours avec sa bonne humeur légendaire, évidemment, et ça, c'est le plus important. Fred Veil, c'est là.
Bonjour.
Voilà quand je parle de bonne humeur, voilà ce que ça donne. Ça va mon Fred?
Ça va super.
Au max.
J'ai jamais été mieux.
Oh, j'espère pour toi que si.
Si j'espère aussi, ouais.
Lui, on aurait bien pu lui donner un kimono doré si on voulait rendre hommage à son palmarès XXL, mais il est bien trop modeste pour ça. Mais nous, on sait bien la chance qu'on a d'avoir avec nous ce matin David Douillet. Salut David.
Bonjour Flora, ça va?
Bah, ça va très bien et toi?
Ouais, ça va. Ouais, c'est un peu tôt, mais comme un bon diesel, bah, je vais chauffer comme d'habitude.
Il finit son jogging là.
Donc en train de me dire que t'as mis Modeste et David Douillet dans la même phrase.
Oui, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça devant
salut
toi.
Salut mon Fred, comment ça va?
Salut.
Mon Fred,
t'es toujours bien quand je t'entends.
Moi aussi. Alizée, bonjour.
Salut David, c'est une première pour nous.
Bon, vous n'avez jamais bossé ensemble,
non.
Vous avez fait des missions ensemble. Bon, tu vas avoir attention. Parce que là, tu connaissais Fred, mais là, c'est level encore.
Non, mais dis pas ça, je m'en vais tout de suite. Hein. Je pars.
Non, c'est pas vrai. Non, le pire, c'est Fred. Moi, je suis une pâle copie de Fred. T'inquiète pas, il
n'y
a pas de problème.
Bon, David,
il était
pas.
Modeste. C'est vrai, il est modeste. En fait.
C'est vrai qu'il est modeste, tu vois, j'avais raison.
Mais
j'ai trouvé parfait
adjectif.
Il y a juste toi qui ne croyais pas.
Non, personne.
David, t'étais pas avec nous hier. Alors, je te demande, est-ce que t'as passé de bonnes fêtes? Est-ce que tout s'est bien passé pour toi? Je pense que tu as bien mangé, j'imagine.
Ouais, non, en fait, non, pas terrible.
C'est vrai?
Ouais, je veux pas rentrer dans les détails, ça interpelle personne, on s'en fout un peu. Mais le traiteur était. Enfin, j'ai fait la fête en famille et ils avaient fait appel à un traiteur, c'était pas top quoi. Mais bon.
On a une bonne pub pour le traiteur de Bourg-en-Bresse.
Voilà, voilà. Il va se reconnaître.
On ne citera pas son nom, évidemment.
Je ne pas ton nom.
Parce qu'on n'est pas là pour. En cette fin d'année, soyons sympathiques.
Culinaire.
Voilà, exactement. Voilà. On compte sur vous aussi pour nous accompagner au 3216 et sur WhatsApp au 06 12 424 424. On attend vos petits messages pour participer avec nous tout au long de l'émission et on vous attend aussi sur X pour voter pour le sondage du jour en cette fin d'année 2025. Les GG vont se projeter sur 2026. Ce sera à 10h pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans cette nouvelle année. Votez pour savoir quel événement a le plus de chances d'arriver. Les GG vous ouvriront aussi leur vestiaire pour savoir s'ils ont été mélomanes au cours de leur carrière. Quelle place la musique a-t-elle occupée dans leur vie de sportif? Entre superstition et détente, ils nous diront tout. RMC en mode Coupe d'Afrique des Nations, vous le savez, en ce moment, le dossier des GG aujourd'hui pour savoir s'il est logique ou non, que la compétition soit désormais programmée tous les 4 ans. Et puis un invité sur le buzzer, le skipper français Mathieu Perrault qui a chaviré sur la dernière Transat Café Or. Il viendra nous raconter son histoire folle. Voilà pour le très beau programme. Est-ce que ça vous va? Je vous sens motivé là, ce matin-là.
Dis non, tu changes
un excellent menu.
Pas pour toi, Fred, en tout cas. Okay. Voilà.
Ta voix. Elle t'a mis du basket en ouverture.
Mais
c'est la première fois de l'année. Jamais Georges aurait fait un truc pareil.
Il n'est jamais content.
Ni même JC, rien du tout. Il faut attendre que Flo arrive quand même pour faire du basket en ouverture.
Allez, il est 9h10 sur RMC. On va démarrer avec la une des GG du sport. Il fait partie des grandes stars du sport français aujourd'hui et pourtant il n'a que 21 ans. Je parle évidemment de Victor Wembanyama, véritable attraction en NBA. Non content d'être aujourd'hui l'une des plus grandes stars de la meilleure ligue au monde, le français fait aussi parler de lui maintenant pour son attitude sur et en dehors des parquets. Wemby est passé en mode américain et ça ne plaît pas à tout le monde.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
On m'a dit, t'es trop douce, t'es trop lisse, tout glisse sur toi.
Victor Wembanyama,
sois moins tendre et descends ta voix.
Wemby pull up three, you bet, welcome back.
Oui, oui. Tu sais, les gens gentils comme toi, on n'aime pas ça.
That's their starting lineup the last couple of games. Wembanyama, pump fake, drives and scores.
Si ça peut faire mal aux adversaires en plus, je suis preneur.
Faut durcir, on t'écoutera pas.
Wemby fires, and he hits another three. Courtois, he's 3 for 6. 4 threes for Wemby here in the first half. Wemby flying through the air.
C'est brique après brique qu'on construit une maison.
C'est très très simple. Non seulement tu connaîras en basket, mais en plus je vais te péter la gueule à la sortie.
C'était Fred Weiss, pas ce matin.
Il me parlait à moi en fait.
Non, jamais je me serais permis de dire ça.
Peut-être à moi.
Si tu te serais permis, on le sait
jamais,
tous Fred. En tout cas, le fameux... Le fameux trash talk, évidemment, quand on parle de trash talk en américaine, on parle de chambrage. Victor Wembanyama a bien compris qu'il fallait peut-être s'en servir pour faire partie des plus grands. Et même au-delà, d'ailleurs, les GG, je vais vous poser cette question ce matin. Wemby doit-il forcément faire attention à son image pour être le plus grand? On va évidemment détailler tout ça et parler et décrire précisément de quoi on parle. Mais je vous demande comme ça un premier avis rapidement. Fred, toi, le spécialiste.
Non.
Ok, Chris.
Oh bah je vais suivre Fred, hein. C'est lui spécialiste, hein. Je vais dire non, je vais surtout pas m'opposer à lui là-dessus.
David.
Oh là là, la Suisse.
C'est clair.
Moi je vais dire oui, évidemment, oui. Oui, oui.
Alizé.
Moi je dis oui, mais il faut bien qu'on précise la signification de faire attention.
Très bien. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque l'image de Victor Wembanyama? On va accueillir tout de suite Camille Borin qui va nous en dire plus. Salut Camille.
Salut Flora, salut à tous.
On a l'impression que depuis quelques temps, quand même, Wemby a changé son attitude pour se fondre un petit peu finalement dans le moule très américain de la NBA.
Oui Flora, tu l'as dit, depuis le début de la saison, Wemby est devenu adepte du trash talk. Alors le trash talk, qu'est-ce que c'est? C'est une attitude qui vise à déstabiliser les joueurs de l'équipe d'en face. Ça peut passer par des regards appuyés, par des petites bousculades ou par des paroles provocatrices. Et par exemple, là, il y a une scène qui fait beaucoup parler. Ça s'est passé jeudi dernier pendant le match qui opposait les Spurs, donc l'équipe de Wemby, au Thunder d'Oklahoma. Chet Holmgren, l'intérieur d'OKC, rate son lancer franc. Et là, Victor Wembanyama se met à crier. Et il faut savoir que Chet Holmgren, c'est pas n'importe qui. C'est le joueur avec qui Wemby était le plus comparé quand il a été drafté en 2023. Parce qu'ils ont le même profil, c'était un peu les deux pépites de leur génération. Donc on voit bien qu'en le trash talkant comme ça, Wemby, il cherche à créer une rivalité. Et une rivalité qu'il cherche aussi à créer avec des équipes comme le Thunder d'Oklahoma, qui est l'immense favori cette saison. Mais que les Spurs viennent de battre 3 fois d'affilée. Et ça, Wemby, clairement, il en joue et il assume ce côté trash talker.
Le trash talk, pour moi, ça peut être utilisé pour deux choses. Soit pour déstabiliser son adversaire, soit pour se donner plus d'énergie à soi-même et à son équipe. Il y a des moments comme ça sur le parquet où tu ne veux pas avoir de filtre parce que ça va avec le flow du match. Tant que ça ne fait pas de mal à l'équipe et que c'est correct humainement, pas besoin de t'arrêter tant que c'est naturel et pas forcé.
Mais cette attitude, elle détonne un peu, hein, parce que même si le trash talk, ça fait partie de l'ADN de la NBA, c'est vrai que depuis quelques années, c'est quelque chose qui est beaucoup moins présent. Certains parlent même du NBA aseptisé, donc forcément, quand un Frenchie commence à agir comme ça et en plus annonce clairement vouloir être le meilleur joueur du monde, bah ça fait parler.
Et ça fait parler aussi en France, évidemment. Merci beaucoup Camille pour toutes ces précisions. On attend aussi votre avis, hein, vous qui nous écoutez en ce matin du 28 décembre. Est-ce que vous comprenez le changement d'attitude de Wemby? Le Le 32-16 est ouvert. On attend aussi vos messages sur le WhatsApp d'RMC au 06-12-424-424. Alors, les GG, on va développer un petit peu tout ça, Fred, puisque apparemment, tu vas donner le ton un petit peu de ce débat, j'ai l'impression.
Ça me met beaucoup de pression.
Non, ça coule sur toi la pression, Fred, on le sait. C'est vrai qu'on a parlé du côté trash talker, qui, nous en France, on a un peu du mal avec ça, mais on en parlera plus tard. Mais sur Wemby, on a l'impression qu'il a toujours eu un petit peu cette attitude made in USA, finalement.
Mais déjà, dans le basket, c'est naturel d'être trash talk. Je sais pas si vous avez vu, quand on fait les émissions, je trash talk un petit peu tout le monde. Parce que c'est juste culturel.
Non,
mais ce que je veux dire, c'est juste culturel chez nous. C'est taquiner, c'est de se motiver.
Il a pas compris qu'il était plus sur Internet.
Je vais mettre beaucoup de temps, je pense, pour m'en rendre compte. Mais non, ce que je veux dire, c'est culturel chez nous. Se taquiner, se chambrer, chercher un petit peu l'adversaire pour essayer de le déstabiliser. Et c'est quelque chose de naturel. Donc, quand on parle de changement, je suis pas d'accord. Il y a pas de changement chez Wemby. Il y a juste une évolution. Il est maintenant un joueur hyper important. C'est une superstar en NBA. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, en France, c'est une superstar de la NBA. Donc, à partir de là, il a le droit. Et au contraire, on aime. C'est rockstar. Alors évidemment, quand la question c'est, il doit faire attention à son image. Oui, il doit pas sortir des pistolets comme Jamorant. Il doit pas. Mais sur le terrain,
c'est pas aller trop loin dans le made in USA. Quoi.
Voilà, il y a quand même des limites à respecter évidemment parce qu'à partir de là, tu passes sur autre chose. Mais sur le terrain, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui lui arrive. Il est sifflé en NBA.
Alors, il faut que tu nous expliques ça, Fred, parce que nous, en France, dans les stades de foot, quand un joueur se fait siffler, c'est pas sympa. Je veux dire, c'est pas un truc qu'il, lui, il va apprécier spécialement. Et toi, t'es en train de nous dire.
Moi, je pense qu'il adore ça. Ouais. Et honnêtement, on adore tous ça. Ça veut dire que quand on se déplace, le joueur important de cette franchise, c'est Wembanyama. Le joueur qu'on a envie d'huer et d'essayer de déstabiliser, c'est Wembanyama. Mais quelle reconnaissance extraordinaire.
Tous les souhaits sont sortis.
Mais c'est juste une reconnaissance.
Ça veut dire que
incroyable.
Tu es craint.
Ça veut dire que tu es craint, ça veut dire que tu es respecté, ça veut dire que tu comptes sur la planète basket. Et donc, je ne comprends pas que mes confrères ici, et compteurs...
Mais parce qu'il attention, on n'a pas parlé encore, alors. Ouais. Doucement.
Parce qu'il comptait pas avant, il n'a jamais compté. Il est arrivé, il était déjà considéré comme une pépite avant même.
Alors oui, lui comptait, mais son équipe comptait pas. En gros, le niveau de
donc il
joueur.
Est sifflé pour son équipe.
Il est sifflé parce que maintenant c'est le meilleur joueur d'une équipe qui compte vraiment, qui a battu OKC, qui est le prétendant au titre. Et donc maintenant, quand on le voit, on voit pas seulement un très grand joueur, on voit un très grand joueur d'une équipe qui potentiellement peut aller très loin.
Donc une menace.
C'est une vraie menace maintenant et ça change la vision des autres.
Ah, mais il est en train de se constituer un vrai personnage en fait avec ce charisme qu'il assume complètement. Moi quand j'ai dit de faire attention, en fait l'essentiel c'est que je pense qu'il faut qu'il soit aligné avec l'image qu'il renvoie. Et là de par ses déclarations, il a l'air complètement aligné, il a l'air d'assumer ça à fond. Il a envie de partir sur ce côté un petit peu sombre, de l'assumer à fond. Et moi je trouve que ça lui donne une envergure incroyable parce qu'il en faut des épaules pour assumer ce genre d'image. Un petit peu clivante, d'être dans la revendication, d'être dans la provocation. Et moi, je trouve que ça lui donne. J'adore. Là, depuis l'exposé de Camille, je me dis, mais c'est exactement là-dedans qu'il faut qu'il aille. S'il décide d'être complètement en accord avec cette image-là, ça va lui donner un charisme incroyable. Et je rejoins Fred sur le fait de dire que, il va devenir une attraction, finalement, dans la NBA, encore plus grande. Et les gens vont avoir qu'une envie, c'est de le voir jouer pour voir est-ce qu'il va craquer, est-ce qu'il va trash-talker. Et en fait, il va avoir tous les spots sur lui, encore plus. Et ça peut que être une bonne chose pour son image. Après, pour devenir le plus grand, c'est juste important d'être en accord avec ce qu'on fait. Parce que dès qu'il y a une dissonance à ce niveau-là, c'est là où on sent que finalement, ça va pas dans le bon sens. Mais lui, il a l'air complètement OK, donc let's go. Oui, Chris.
Ouais, non, juste qu'il faut pas qu'il force le personnage. Moi, je sais pas, quand on le voit comme ça, Wemby, quand on le suit depuis quelques années, on a vraiment pas l'impression de voir un bad boy, un mec qui est là pour.
Non, il a toujours été, il cache son jeu.
Bien élevé, je veux dire, il parle anglais parfaitement, il répond à tous les bons critères. Et il faut pas non plus qu'il force le personnage,
je parlais d'évolution, parce que c'est vrai qu'au départ, il trash-talkait un petit peu, mais effectivement, il n'avait pas ce charisme, il n'avait pas ses capacités à le faire en étant pris au sérieux. Sauf que maintenant, quand il le fait, il est pris au sérieux. Mmh. Et donc il évolue. Mais tous les basketteurs ont ce passage-là. Quand t'es jeune, tu vas pas trash-talker tout le monde. Parce qu'à un moment, il faut savoir qui tu es quand même. Mais maintenant, il est arrivé à un niveau, il peut se permettre de trash-talker. Il est respecté par les autres. Il est craint, il est même sifflé.
Il a dit dans sa déclaration qu'il voulait en aucun cas forcer le trait. mais que ça devenait naturellement quand il était sur un terrain et que c'était vraiment l'endroit propice à justement cette attitude.
Mais et c'est vrai qu'on on dit souvent que David, tu vas pouvoir nous en parler, et que quand on veut devenir une superstar, il faut aussi être charismatique, il faut avoir une personnalité forte, il faut savoir s'imposer aussi, c'est important, David.
Ben, il faut tout simplement être soi-même. Mais faut pas devenir une caricature non plus. Et c'est ça le piège qui peut l'attendre. C'est-à-dire que quand tu chambres les autres, en pleine action, tu laisses aussi échapper une pression. Tu es sur le moment présent, t'es sur le côté un peu hormonal du jeu, quoi. Tu vois. Et si tu n'es que ça, bah tu deviens une personnalité un petit peu restreinte. Évidemment que la personnalité d'un garçon comme Victor est immensément plus riche que ce qu'il montre, et de prendre ces petits bouts de réaction ne suffit pas à le remplir, à le caractériser. Il a 21 ans, c'est ça le truc. 21 ans, t'as encore beaucoup de... T'es très jeune à 21 ans. C'est comme Isaac Hadjar en Formule 1. 21 ans, c'est des bébés, quoi. Tu vois, ils arrivent. Mais c'est déjà ils sont déjà dans la cour des grands, mais ils n'ont que pousser la porte, même avec tout le talent qu'ils ont et tout le potentiel qu'ils ont. La route est longue, c'est ça qu'il faut comprendre. La route peut être très longue, et je leur souhaite d'ailleurs de tout cœur que la route soit la plus longue possible. Donc à un moment donné, tu vas penser à ça, et puis tu dis faut peut-être un petit peu que je montre qui je suis vraiment, et qui je suis vraiment, c'est pas que du chambrage, c'est pas que de l'invective, c'est pas que de la réaction à chaud, etc., etc. J'ai aussi de la profondeur, j'ai aussi de la réflexion, j'ai aussi du recul.
Mais ça, il l'a déjà montré. David, je crois qu'il l'a déjà montré. Il a montré plein de choses.
Non, mais si ça,
justement, c'est une autre facette, de son caractère, justement.
Tu as raison. Tu as raison, mais après, tu vois, tu sais comment fonctionnent nos amis journalistes. Ils ne retiennent que ce qui est trace, que ce qui est violent, que ce qui fait parler, etc., etc.
Non, Christophe, non, pas du tout. Ça.
Et des fois, la balance se déséquilibre, tu vois. La balance se déséquilibre et tu n'as plus que ce personnage-là. Moi, j'ai en mémoire McEnroe, par exemple, tu vois. McEnroe, qui est un personnage extrêmement rempli, extrêmement riche. Eh ben, quand on pense à McEnroe dans la conscience collective d'aujourd'hui, on se dit, on le voit gueuler, tu vois. La première image que t'as, c'est tu le vois gueuler contre l'arbitre, tu vois gueuler contre son adversaire, etc. Et c'est évidemment
pas culturel au tennis,
tu vois. C'est pas que ça.
David, c'est parce que c'est pas culturel au tennis. Le chambrer, c'est pas extrêmement culturel. Tout le monde se chambre pas, tout le monde s'acquine pas. Il y a quand même.
Ouais, McEnroe, c'était pas. C'est même plus que du chambrage.
Il avait poussé les limites aussi quand même de l'acceptable.
C'était quelque chose de nouveau. C'était quelque chose qu'on connaissait pas trop au basket. Se chambrer, c'est juste la base. Je pense qu'on fait même des petits matchs de basket dans la rue. Les gars se chambrent, se taquinent, se critique, etc. Parce que c'est juste culturel.
Mais qu'est-ce que t'en penses, Fred ? Tu crois pas qu'en allant dans cette direction, il va aussi, quelque part, avoir l'obligation d'assurer en termes de niveau ?
Parce oui, que quand mais tu, en même quand temps, tu... il l'a déjà.
Oui, mais comme l'a dit David, il a que 21 ans. Oui. Tu vois, dans le long terme, ça va quand même lui mettre la pression pour être toujours au niveau, toujours au rendez-vous, le soufflet va retomber.
C'est une chose magnifique pour lui, parce que justement, il a toujours besoin de cette motivation supplémentaire. Mmh. Il a toujours besoin de montrer qu'il est le meilleur. Et je trouve que, justement, se mettre encore plus en danger, parce que forcément, quand tu fais du trash talk,
tu te mets en danger.
Et lui, se mettre en danger, à chaque fois qu'il s'est mis en danger, il a répondu.
Mais il y a des joueurs que ça transcende.
Et je pense que ça transcende. Et vraiment, encore une fois, sur un terrain de basket, ça transcende.
Certains frères lui ont reproché justement de parler aujourd'hui parce que les Spurs vont mieux par rapport, tu vois, à la saison dernière où on entendait moins Wemby aussi comme ça avoir ce genre de déclaration et tout. C'est ce qui est aussi reproché aujourd'hui aux Français finalement.
Vrai. Mais oui. c'est clairement vrai parce que son équipe
va
mieux.
C'est plus facile de parler forcément quand
ça marche.
Mais aussi, il est très jeune et donc dans son évolution, c'est logique qu'il parle un petit peu de plus en plus parce que il est de plus en plus mature, de plus en plus connu, etc.
Oui, mais ça détonne aujourd'hui parce que la NBA est un petit peu plus aseptisée aussi qu'elle ne l'était par le passé.
Il parle pas tant que ça.
Mais vous croyez pas que
sur le terrain, en fait.
Vous croyez pas que s'il était trop sage, entre guillemets, on lui reprocherait de pas avoir de charisme?
Il
n'y a pas de bonne solution. En fait, s'il a envie d'être lui-même, qu'il soit lui-même, comme l'a dit David très justement, l'essentiel, c'est qu'il soit fidèle finalement à ce qu'il a dans ses tripes.
Oui, et finalement, ça, moi, tu vois, j'ai une image qui me vient en tête. Je pense à Stephen Curry, qui a une image plutôt bonne en NBA et qui trash talk malgré tout beaucoup. On se rappelle tous de son fameux night-night au JO quand il a éteint l'équipe de France et qui nous a chambré sur le parquet et qu'on a adoré le détester finalement, c'est pas parce qu'on trash talk non plus, Fred, qu'on a une mauvaise image en soi. Non, ça peut être du bon trash talk.
Il y a des joueurs de tennis qui veulent mettre ça en place dans le tennis.
Non, moi je pense que c'est hyper important ce trash talk. Justement, ça crée des rivalités. En fait, il faut se rendre compte, en plus, que sans Antonio et Okeci.
Mais c'est quoi les limites du trash talk?
Le respect, le manque de respect, les insultes, le manque
des
de respect.
Des fois, c'est quand même ça flirte avec les limites.
Oui, hein. Et flirter avec la limite, c'est pas la dépasser.
La frontière est fine.
Tu m'en diras plus tard.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
C'est la frontière.
Non, mais réellement, il n'y a pas de limite absolue. Les insultes, c'est déjà une limite, mais ça dépend comment c'est fait, ça dépend dans quel contexte, et ça se comprend tout à fait. Par exemple, il y a des joueurs, Dylan Brooks et LeBron James, qui s'embrouillent tout le temps. C'est du trash talk tout permanent entre les deux, là.
Il y a de la rivalité aussi entre certains joueurs.
Une rivalité parce que c'est comme ça et ça plaît à tout le monde. J'en ai marre. Moi j'aime bien les rockstars. C'est pour ça que j'aime bien David Douillet. J'aime bien Yves Descornet parce que c'est des rockstars. Elles se la racontent. Elles font n'importe quoi. Et voilà. Et Christophe Cessieu est beaucoup plus calme par contre. Ouais.
Donc tu l'aimes moins.
Bah, il est plus.
Allez, 9h25 sur RMC. La Ligue des GG revient dans quelques instants. On va continuer de parler de Victor Wembanyama. On va se demander pourquoi on a du mal avec cette mentalité. Nous, ici en France, on a parlé des States, mais ici en France, on a plus de mal, sans oublier le zapping. En bref, tout ce qu'il faut retenir de l'info de la semaine et puis les avis des GG, évidemment. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
9h26 sur RMC, on est de retour dans les grandes gueules du sport. On vous accompagne jusqu'à midi avec Christophe Cessieu, Fred Weiss, Alizé Cornet et David Douillet. On vous attend aussi au 32-16 pour venir participer avec nous et débattre avec des GG déjà très en forme ce matin. La une, ça continue avec cette question. À l'image de Victor Wembanyama, faut-il avoir cette mentalité made in USA pour réussir? On parlait justement de cette mentalité aux States qui fonctionne très bien, d'assumer ses ambitions aussi. On a plus de mal avec ça, nous, ici en France, et des discours parfois qui dérangent, qu'on a difficile à supporter. On l'a vu par d'autres, avec d'autres sportifs par le passé. Pourquoi on a du mal avec ça? Toi, Fred, je sais que ça t'agace aussi profondément.
Je comprends pas pourquoi on a du mal avec ça. C'est vrai qu'on a l'impression que quand on dit qu'on veut être le meilleur, quand on dit qu'on est le meilleur, quand on dit qu'on veut tout faire pour l'être, on a l'impression qu'on se la raconte, en fait. On a l'impression qu'on est hors sol, qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, etc. Sauf que c'est faux. Avoir confiance en soi, c'est plutôt bien. Si toi, t'as pas confiance en toi, c'est pas les autres qui vont avoir confiance en toi.
Mais donc, au-delà d'avoir confiance en soi, c'est le fait de le dire qui dérange, finalement.
Oui, mais en quoi c'est gênant? Depuis le début, de dire ce qui est important, c'est être en accord avec soi-même. Si toi, tu penses ça, pourquoi tu dirais pas ça?
Parce qu'en France, c'est mal vu, c'est juste mal vu.
Oui, mais pourquoi c'est mal vu?
Il faut que tes performances soient à la hauteur de tes prétentions. Moi, je me rappelle de Arthur Fils. On parlait d'un tennisman tout à l'heure. Arthur Fils, il y a 2-3 ans, disait: moi, je vais être le numéro 1 mondial, je vais être le plus fort et tout. Ok, c'est bien de le dire quand t'as 18 ans, que t'as rien montré. Mais derrière, faut assumer. Faut être.
Mais pourquoi faut assumer? Pourquoi on n'a pas le droit de le.
Parce que tu passes pour un idiot.
Mais il est 30e mondial.
Tu termines 40e mondial.
Mais attends, il a 20. Quelle énormité, parle Christophe, quand même, j'attendais mieux de toi.
Wemby dise je suis le meilleur.
En fait, t'es typiquement le français, quoi. C'est un truc de fou, c'est toujours le français, quoi. Arthur, il a quand même annoncé son ambition, ce que je trouve très courageux, parce que justement, ça va à l'encontre de la culture française de le faire. Et comme tu as si justement dit, tu passes pour un idiot, je ne vois pas déjà pourquoi tu passes pour un idiot. Le mec, un an plus tard, était 30e mondial, et c'est pas de la merde, entre guillemets, 30e mondial, quand t'as 20 ans ou 21 ans. Derrière, il se blesse. Ok, on va voir ce qu'il fait dans le futur, donnant le temps au temps. Le truc, c'est qu'en France, on juge très vite et qu'on a une culture de la jalousie où les gens qui réussissent, on ne supporte pas. Arrête de me couper, Samina. Les gens qui réussissent, on ne supporte pas. Les gens sont jaloux en France. Aux États-Unis, t'as un mec qui a réussi, ça attire les gens, ça attire les compliments, on va lui demander pourquoi. En France, quelqu'un qui réussit, il va se cacher parce que finalement, ça. Mais j'entends David qui est d'accord. Vas-y, David,
je te laisse la parole. Ah ouais. Non, mais Alizé, je suis tellement d'accord avec toi. On a un problème avec la réussite en France. Mais quel que soit le sujet, hein, que ce soit le sport ou autre chose, hein, dans le milieu des affaires, dans le milieu de artistique, etc. À un moment donné, alors les gens sur l'instant T, ils adorent voir gagner un Français, c'est formidable, etc., etc. Et je veux dire que très vite après, ils te critiquent. Voilà. Et surtout si t'es pas tout à fait au rendez-vous, si t'as un petit accrochage, etc.
la jalousie française, c'est pas quelque chose d'anodin.
Mais quel
jalousie, c'est vrai.
Mais une espèce de jalousie. On le ressent, nous, en tant qu'athlète, Christophe.
Quand tu réussis, t'es jaloux. Les gens sont jaloux. Et même entre athlètes, hein. Alors, entre athlètes, ça peut se justifier. Moi, j'ai vécu des trucs en équipe de France, je vais pas citer de nom. Où un de mes potes, un de mes super potes, hein, m'a dit, Fred à un moment donné, je lui dis, non.
On embrasse Fred.
Ouais, on l'embrasse. Un jour, et il m'a avoué, hein, le garçon en question m'a dit, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher, parce que aujourd'hui, t'es leader de l'équipe de France judo. C'est ma place, normalement. J'ai dit, mais c'est ta place de quoi? Ben, parce que j'ai un an ou deux de plus que toi, parce que j'ai été champion avant toi, etc. Et t'as pris le pas de, et je peux pas m'en empêcher. C'était dingue, quoi. Et je l'ai laissé comme ça. Je lui dis, ben, écoute, tu c'est ridicule.
Pourquoi
c'est
il supporte pas que tu sois meilleur que lui, c'est ça?
Mais je supportais pas que ce soit plus le leader de l'équipe de France.
Oui, mais ça peut un peu plus s'entendre, j'ai envie de dire.
C'est l'image, c'est à l'image de la société française est comme ça, je t'assure. Je vous jure que c'est vrai. Et Alizé a totalement raison. Alors que dans l'univers anglo-saxon, eh ben, on admire, on essaye de prendre l'exemple, etc., etc.
C'est inspirant.
Alors que chez nous, on critique, voilà, c'est inspirant. Donc, on critique, donc, okay, donc, on est là, donc, on est dans le négatif. Tu arrives sur le ta bagnole, etc.
Non,
etc.
Mais en parce fait, que quand un athlète est très haut, on va le porter au nu, on va l'admirer, comme l'a dit David. Quand on aime quand même voir nos athlètes français gagner. Mais alors, par jusqu'à contre, il faut déjà jusqu'à une certaine limite, parce qu'on va se faire critiquer.
Okay, tout le monde doit dire surtout, je vais être le meilleur, je suis le meilleur.
Mais pourquoi pas, Christophe? Mais on aurait plus d'athlètes, au plus haut niveau si chacun.
Si tout le monde disait.
C'est grave, je vais être le meilleur.
Fred, arrêtez d'interpréter mes trucs. Je dis juste que quand tu veux, avant d'annoncer que t'es le plus grand, que tu vas être le meilleur,
mais pas que tu es le plus grand, que tu veux le devenir. Il y a quoi de mal à ça, Christophe, de dire je veux devenir le meilleur?
C'est deux choses, c'est se mettre la pression, parce que forcément ça se met la pression, tu sais que ça peut te retomber dessus, et de l'autre, c'est juste afficher tes ambitions. Et en quoi afficher ses ambitions, c'est grave?
Parce qu'en France,
ce discours est très compliqué, assumer.
Nous, on est fiers d'être le meilleur. En France, on est qu'un peuple de pleureuses. Arrêtez un peu.
Christophe, il y a plein de points négatifs aux États-Unis, il y a plein de choses qui vont pas, alors président en premier. Mais par contre, ça, juste ce petit, on va dire, détail chez eux, pour un athlète, ça fait une énorme différence. Et tu peux le ressentir quand tu passes d'une culture à l'autre. Ça n'a rien à voir. Et je fais pas l'apologie des États-Unis. Loin de moi cette idée. Je suis très contente d'être française, de vivre en France. Mais pour le coup, sur ce point-là, il y a vraiment une différence d'inspiration. Les gens lambda vont mettre les athlètes sur des piédestals, quoi qu'ils fassent. En fait, à partir du moment où t'es un athlète aux États-Unis, t'es un demi-dieu. C'est presque trop. Alors qu'ici, en France, déjà, on a une culture du sport qui est quand même assez mesurée. Et puis surtout, voilà, on est tout le temps en train de juger, de regarder. Et puis il faut gagner jusqu'à une certaine limite, parce qu'après, c'est quand même pas normal. Il faut pas se louper, parce qu'après, tu vaux plus rien. C'est vraiment très, très clivant. Et un athlète,
on l'a vu d'ailleurs à Kylian Mbappé, qui est peut-être l'exemple aussi parfait, qui a été porté très, très haut, très, très vite et très, très jeune aussi finalement. Et puis dès qu'il a eu justement ce discours d'assumer de je veux être le meilleur, je serai le meilleur, je veux le ballon d'or, etc., etc., il y a l'écriture. Les critiques sont arrivées quand même au fur et à mesure.
Je pense que les critiques vis-à-vis de Kylian Mbappé sont surtout arrivées quand il a commencé à prétendre des choses, quand il a voulu changer de club, demander plus de choses au Paris Saint-Germain.
Avoir d'autres ambitions.
C'est pas tellement par rapport à ses prétentions, parce que sur le terrain, il a assumé d'être le meilleur.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'il a commencé à être un petit peu moins bon, on lui a ressorti toutes ces phrases-là pour justement le mettre face à ses contradictions. Moi, c'est juste que ça.
Je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il ait été vraiment critique.
Je pense qu'il y a un petit peu des deux. L'image joue peut-être un peu.
Non, mais l'image joue beaucoup. L'image joue beaucoup, oui, bien sûr. Mais moi, ce qui me surprend, Christophe, c'est que tu puisses dire qu'on puisse assumer ici de dire je veux être le meilleur et sans se faire tomber dessus. Si, en France, tu dis ça,
exactement,
tu te fais tomber dessus.
Exactement.
Parce que les gens disent que
la preuve,
tu
viens de le faire avec Arthur.
Non, si tu derrière, si t'assures pas.
Oui, mais si t'assures pas, au moins, je vois
ça,
pas,
c'est ton problème.
Ça, c'est ton problème.
D'accord,
si tu
d'accord.
Pas.
Donc, oui, mais là où je rejoins Christophe, c'est que le sport est médiatisé.
Donc,
ce que tu dis,
vous mettre dans une vitrine, vous regardez, vous dire vous êtes des dieux, vous êtes les meilleurs.
Non,
mais
attendez,
juste soutenir les ambitions, c'est tout.
Chacun son rôle dans cette société. Vous êtes des sportifs, vous êtes là pour briller, vous êtes là pour
pour gagner. Nous, on est là pour regarder et ce que vous faites et dire du bien ou du mal. Voilà, c'est chacun son métier. Les gars, vous n'êtes pas journaliste et moi, non, je ne suis pas athlète. Non, mais attendez, ne confondez pas tout.
David va ajouter quelque chose. Vas-y, David.
Mais bien sûr que chacun prend ses responsabilités. Sauf qu'un athlète, comme un chef d'entreprise d'ailleurs, il prend des risques. Voilà, il prend un risque d'y aller au combat, d'aller se remettre en question, et puis de l'exposer devant tout le monde, et puis quelquefois de l'annoncer à l'avance, tu vois. Et ça, je trouve que c'est noble comme attitude, même si tu y arrives pas. C'est-à-dire que tu montres l'envie d'aller devant, de l'avant, et de tout faire, de travailler, d'être dans l'abnégation la plus absolue, de concentrer, de tout jouer, de tout mettre sur le tapis. Je veux dire, dans notre société, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça se passe comme ça. On est dans le mesuré, on est dans le calculé, etc., etc. À un moment donné, tu mets tout sur la table, quoi, tu vois. Et ça demande du courage. Et ça, on n'en parle jamais. On n'ose pas en parler. On dit pas que les gens sont courageux. Oui, il faut avoir du courage. Quel que soit le niveau. Et ça va pour d'autres métiers, je l'ai dit.
Donc, je vais rebondir, c'est
extrêmement important que de respecter la volonté et ce que disent les gens. Quand un gamin me dit, mais moi je veux réussir, je veux gagner, je veux être le meilleur. Je trouve ça d'une honnêteté absolue. Il est honnête et il est en ligne avec ce qu'il est. S'il n'est pas comme ça, faut qu'il fasse autre chose. Et s'il n'ose pas l'avouer, c'est bien dommage. Et là, il est déjà aseptisé. L'aseptisation, elle a lieu à ce moment-là. Elle n'a pas lieu dans le fait de quand on gagne, de dire oui, j'ai gagné, mais bon, l'autre était fort, etc., etc. Non, mais non, t'as gagné parce que t'étais le plus fort. Point à la ligne. Assume-le. Voilà. L'aseptisation de notre société à vouloir mettre tout le monde dans le même moule, tout le monde dans l'égalité, etc., c'est absurde parce que ça n'existe pas. C'est un énorme mensonge.
Moi, j'ai juste un exemple de Tony Parker. Quand il est arrivé en équipe de France, nous, on avait l'habitude, parfois en difficulté, parfois on était content d'être quatrième, parfois, tu vois ce que je veux dire? On n'avait pas cette capacité à avoir confiance énormément en nous et à l'afficher. Et je t'assure que l'arrivée de Tony Parker et sa mentalité a fait
très un
énorme à l'équipe de France. Parce que pour lui, jouer contre une équipe, c'était peu importe qui c'était en fait. On peut les battre, on peut être meilleur qu'eux. Ils ont deux bras, deux jambes, etc., etc. Et ce discours nous a fait tellement de bien qu'on a été pendant très longtemps, là, en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué, même si les JO sont passés par là, on a été une des nations qui comptait le plus.
Ça a aidé à franchir un cap, peut-être.
On a franchi ce cap de confiance, de volonté, d'énergie. Et la confiance en soi, c'est tellement important.
En termes de mentalité, ça change tout. C'est clair.
Extrêmement important.
On a Kevin qui est avec nous au 32-16 ce matin dans les Grandes Gueules du Sport. Salut Kevin.
Salut Flora, salut les Grandes Gueules.
T'arrives dans un débat enflammé ce matin. On était parti sur Wemby, sur la mentalité qui est importante dans le sport français. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, toi?
Mais alors, ce que je voulais dire déjà, c'est que mettre un sujet basket à la une, ça fait un excellent débat, donc je pense qu'il pourra renouveler l'expérience.
C'est
le premier truc. Après, le deuxième truc, bah, je rejoins un petit peu David sur le fait que ce qu'il est en train de faire Wemby, c'est courageux. Parce que quand tu commences à parler comme ça, t'as deux chemins possibles. C'est soit tu finis Paul Bocuse, soit tu finis traiteur de Bourg-en-Bresse. Et ça peut devenir un petit peu compliqué. Surtout qu'il n'était pas obligé de faire ce choix-là. On a aujourd'hui des très bons joueurs et même peut-être des joueurs qui sont dans la légende de l'NBA qui sont déjà comme Nikola Jokic ou Yannick Antetokounmpo. Qui n'ont jamais fait ce choix-là, qui sont restés des joueurs assez lisses finalement, et qui ça ne leur empêche pas d'être des joueurs excellents. Lui, Wemby, il a fait ce choix-là et c'est un choix. Il y a aussi des joueurs qui sont un peu idiots comme Anthony Edwards ou Ja Morant, pour qui voilà ils sont mis à parler parce que c'est naturel.
C'est l'extrême hein, quand tu parles de
ces joueurs. Ouais, c'est l'extrême. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Wemby, là, c'est conscient en fait, il fait ce choix. Il faut se rappeler que c'est un joueur d'échecs aussi et que la dimension psychologique dans le jeu d'échecs, quand tu vas avancer ta dame dans le coin adverse, c'est aussi une manière de psychologiquement mettre la pression à l'adversaire. C'est ça. Il a choisi un chemin. Il n'est pas idiot. Il a choisi ce chemin-là. Maintenant, il faut qu'il assume. C'est très courageux. Il a les capacités. Il a le physique et le talent pour l'assumer. Maintenant, bah, c'est l'histoire qui le dira. On a un autre joueur français qui avait fait ce choix-là après des bons résultats. C'est Rudy Gobert et qui a pris un sérieux retour de bâton vis-à-vis des observateurs en NBA. Qui est aujourd'hui un des joueurs les plus détestés par les commentateurs NBA, même s'il fait une carrière excellente. Voilà, Rudy Gobert, il a pris un retour de bâton derrière parce qu'à un moment donné, il l'avait ouvert et qu'il a eu des performances qui ont été en baisse à un moment dans sa carrière. Donc, bravo Wemby, bravo d'avoir choisi ce chemin-là. J'espère que tu viendras défendre aussi ce caractère-là en équipe de France le plus possible, parce que Cheltovren, pour reprendre cette comparaison, il y a des chances qu'il retrouve aussi avec un maillot USA dans les années à venir. Donc voilà, chapeau Wemby, mais maintenant va falloir assumer.
Ouais, la rivalité n'est pas finie entre les deux. Et concernant ce débat sur la mentalité française, justement, avec le fait qu'on ait du mal, nous, parfois, à entendre des sportifs dire qu'ils sont les meilleurs et qu'ils veulent devenir les meilleurs, qu'ils veulent gagner. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quelque chose que tu ressens aussi?
Moi, je pense qu'il y a une évolution là-dessus. Je pense que le discours des Français, on a quand même une nouvelle génération de sportifs et puis d'observateurs. Qui valorise un petit peu ça. On voit que sur le plateau d'ailleurs aujourd'hui, on a quand même une majorité des consultants qui sont sur la ligne que c'est très bien. Donc je pense que c'est discours qui est un petit peu, c'est qu'il y a des gens qui ont passé la soixantaine qui peuvent tenir un discours un peu comme ça. Mais pour des jeunes journalistes, je pense qu'il y a quand même une évolution là-dessus.
Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonne fête à toi. Tu reviendras évidemment quand tu veux.
Non, il revient plus lui.
Christophe n'a pas 60 ans, d'accord?
Mettez les choses au clair. Vous me l'interdisez.
Allez, les 9h41 dans les grandes gueules du sport. On revient tout de suite, une petite pause, et juste après on se retrouve pour le zapping. On vous rappelle aussi le sondage du jour tout à l'heure à 10h. On se projettera sur l'année 2026 pour essayer de savoir ce qu'il peut se passer. On va articuler ce qu'il peut se passer dans cette nouvelle année, avec évidemment l'avis des GG. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 9h44, vous êtes bien sur RMC, les grandes gueules du sport sont au rendez-vous dans cette période des fêtes pour vous accompagner jusqu'à midi. Christophe Cessieux, Fred Weiss, David Douillet, Alizé Cornet sont au rendez-vous. On vous rappelle le WhatsApp aussi pour nous laisser vos petits messages au 06 12 424 424. L'occasion aussi de vous dire que ce week-end dans les grandes gueules du sport, vous allez remporter peut-être votre PC portable Altix 16 pouces et garantie 3 ans. Altix est une marque française d'ordinateurs installée à Nantes avec un vrai ancrage local, et leur mission, simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. Pour remporter votre PC portable Altix, vous appelez le 3216 touche 4 ou vous envoyez sport au 73216, sport au 73216. Vous participerez au jeu du sport tout à l'heure en fin d'émission et le vainqueur remportera le PC portable. Allez, les 9h45 tout pile, c'est l'heure de zapper un petit peu.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
On s'en fout pas, les GG. C'est l'affiche ce soir en clôture de la 13e journée du top 14. La Rochelle se déplace à Toulouse. Les Rochelais vont tenter de faire chuter le co-leader du championnat qui reste pourtant sur 5 victoires de rang. Un match évidemment en pleine période des fêtes, et alors que la prochaine journée de top 14 enchaînera dès le week-end prochain après le 1er janvier. Toujours particulier pour les joueurs à l'image d'Ange Capozzo, le Toulousain.
Il y a une connotation de fête, mais ça reste un match de rugby important, de championnat. C'est pas un match de gala ou amical. Donc justement, c'est un peu le danger, c'est de continuer quand même à être très sérieux, même si la préparation est courte, d'aborder ce match comme tous les autres, même si forcément on sait que le contexte est un petit peu différent. Mais c'est important de rester, de garder ce sérieux-là.
Les joueurs du top 14 qui pourraient avoir la tête ailleurs qu'au terrain pendant cette période des fêtes, alors que les matchs s'enchaînent. On s'en fout ou on s'en fout pas, Chris?
Ouais, non, on s'en fout pas. C'est un match important.
Fred.
La Rochelle. Fred, il s'en fout.
Le co-leader qui joue contre le 7e.
All-Star Game. Il fera du 1 contre 1. Ouais. Donc de regarder.
Vous serez en concurrence.
Non, on sera en concurrence, oui. Mais quand je pense au co-leader qui joue contre le 7e, ça m'intéresse pas du tout.
Le 7e, c'est vrai que tu l'as retenu.
La piscine nous a fait gagner hier.
Eh oui, Alizé.
Mais il m'a expliqué pourquoi il avait.
Je m'en fous pas.
David?
Ouais, je m'en fous, moi.
David, il sera en train de bouffer de la dinde ce soir. Il va pas regarder le rugby. Quand
exactement.
Même.
Allez, Chris, défends-nous tout ça.
Mais je trouve ça sympa qu'un 28 décembre,
t'es une affiche comme ça.
Ouais,
c'est exactement ce que j'allais dire.
La une de l'équipe aujourd'hui. On va en parler tout au long de la journée, en concurrence avec le All-Star Game de basket. Mais c'est bien comme ça qu'on ait des affiches un 28 décembre. Toulouse-La Rochelle, c'était la finale de 2023. Même si La Rochelle est plus tout à fait au même niveau qu'à l'époque, moi, je serais content ce soir de pouvoir regarder ce match, donc je suis ravi que
on parlait d'avoir plus de sport pendant les fêtes hier. Ouais. Voilà,
exactement. Le seul truc, c'est que souvent en rugby, les affiches sur le papier sont plus belles que sur le terrain, parce que les équipes visiteuses font des impasses. Ouais. Tu gères ton effectif, donc je sais pas.
Et est-ce que encore plus ce soir, à cette période des fêtes, tu crois, ou ça change rien le fait que ce soit?
Non, ça change rien. Ça change rien.
Même les joueurs sur leur focus, ils sont pas en train de penser au petit repas du 31 au soir.
Non, ça je pense pas. Tu
ils sont,
c'est très loin, trois jours dans la vie d'un athlète.
Non, mais sachant que t'as encore un match en plus le week-end suivant. Ok, donc on s'en fout pas. Très bien, Chris. Nous a convaincu quand même. Non,
oui.
Fred, non. Non, pas du tout.
Non, pas Fred. Non,
mais... Très bien, mais surtout que c'est deux équipes plutôt en confiance, donc ça risque quand même d'être un bel affrontement.
Oui. On va prendre un peu le large, tiens, avec le trophée Jules Verne, qui se déroule en ce moment, Tour du Monde en équipage sur un maxi trimaran. Vendredi, le bateau emmené par Thomas Coville a franchi le célèbre Cap de Bonne-Espérance avec presque deux jours d'avance sur le précédent record. Alors qu'il s'apprête à s'attaquer aux mers du Sud, l'équipage est bien parti pour établir un nouveau record final et effacer ainsi les tablettes Francis Joyon. Alors, on s'en fout ou on s'en fout pas ? David ?
Moi, je m'en fous pas parce que.
Il a fini sa dinde.
Ouais. Elle était un peu sèche.
Non, mais c'est à cause du traiteur, ça.
Je m'en fous pas parce que, en fait, là, on est en train de spéculer. Oui, ok, il a deux jours d'avance. Enfin, il a pas forcément deux jours d'avance. Il a
une dizaine
d'heures. Ouais, il passe le cap de Bonne Espérance. On est à la moitié de la course, à peu près. Enfin, il en reste encore une grande partie, mais
ah, oui, justement,
il reste les deux tiers, je crois, à peu près. Hein.
Ouais, mais c'est surtout donc, il reste les mers du Sud, quoi. Jusqu'à
oui,
présent,
c'est ça. Et voilà, c'est ça. C'est tout le tour là. C'est effroyable. C'est là où il peut tout se passer, où la moindre avarie peut prendre des proportions dramatiques. On est déjà en train de vendre un petit peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il peut tellement se passer de choses qu'il faut rester prudent, mesuré, là, pour le coup, et extrêmement vigilant, quoi.
Enfin, on peut expliquer les règles à David Douillet, ça m'intéresse ou pas?
À l'échelle de la voile,
c'est le zapping, là. Laisse-le s'expliquer. Vas-y, David.
Fred,
peut-être que ça m'intéressait de fou.
Oui, bien sûr.
Je pense. Ben, si ça t'intéresse, on va t'écouter dans deux secondes. Mais je veux dire, à l'échelle de la voile, deux jours, ça paraît énorme pour nous, mais à l'échelle de la voile, c'est rien. C'est ça que je voulais dire.
Oui. Donc tout peut se passer encore. Donc rien n'est fait. Alors, Fred, on s'en fout ou s'en fout pas ?
Je m'en fous.
Voilà. Bah, évidemment, c'est étrange.
Mais c'est tellement bien expliqué par David que c'était passionnant. Il a pas compris le principe de la séquence.
Il a absolument tout dit. Mais par curiosité, à liser. On s'en fout ou s'en fout pas ?
Je m'en fous pas, mais si, en fait.
D'accord. Et Chris ?
Ah non, moi je m'en fous pas. Moi j'adore la voile, j'adore ces tentatives. Mais effectivement, là, il rentre dans le dur. Là. Les mers du Sud, des vagues hautes comme des immeubles, des tempêtes incroyables. C'est là que c'est l'instant de vérité, c'est maintenant, c'est pendant les deux semaines qui viennent. Là.
Alors on continue, on s'en fout pas. Pour l'instant, je souffre. Il faut passer par une période de deuil. Ce sont les mots de Juan Carlos Ferrero, ancien coach de Carlos Alcaraz. Les deux hommes ont mis fin à leur collaboration la semaine dernière à la suite d'un désaccord sur la prolongation de contrat de l'entraîneur, qui est revenu longuement sur cette séparation dans la presse. Je pense encore tous les jours à Carlos. Nous n'avons jamais eu de dispute. Tout est bouleversé. Nous avons peut-être tous les deux besoin d'un peu de temps pour digérer. Je suppose que cela me fera aussi mal de le voir jouer dans les tournois. Alors, Juan Carlos Ferrero, qui compare la de sa collaboration avec Alcaraz à une rupture sentimentale. Ouais. On s'en fout ou on s'en fout pas ? Alizé.
Ah, non, je m'en fous pas et je pleure.
Ah ouais, t'es dans le même mood, quoi. Fred.
Je m'en fous pas.
Chris.
Non, mais j'ai envie d'écouter Alizé, là.
On va juste demander l'avis de David aussi. On s'en fout ou s'en fout pas, David ?
Moi, je m'en fous pas non plus.
Alors, Alizé, on t'écoute.
À dire. Non, mais j'ai cette nouvelle. Enfin, le matin où je l'ai apprise, je suis restée. Quoi ? Je n'y ai pas cru, déjà parce qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur, d'ailleurs ce qu'a confirmé Juan Carlos Ferrero. Aucun des deux ne l'a vu venir, visiblement. Ils ont passé une année merveilleuse dans le plus beau des mondes. Ils n'ont pas eu de disputes.
C'est ça, parfois, les ruptures sentimentales. Ouais,
c'était une des meilleures saisons en termes de résultats de Carlos. Ils n'ont pas eu d'accroc humainement. Tout s'est bien passé. Ils étaient, après les Masters, ils étaient partis pour une nouvelle saison. Et là, bam.
Il a demandé un zéro.
Visiblement, le père est rentré dans l'équation. Parce que j'ai entendu dire que ça venait du père de Carlos Alcaraz. Alors, ce n'est que des spéculations
de son fils. Hein.
Mais du coup, on se demande la responsabilité de Carlos Alcaraz là-dedans, qui a quand même 23 ans et qui est censé, pour moi, prendre en main un petit peu sa carrière à cet âge-là. S'il avait envie de continuer avec Juan Carlos Ferrero, et j'en doute pas, parce que les deux ont l'air de souffrir de cette situation, je pense qu'il aurait dû step up et peut-être s'imposer au père, et dire à son père, écoute, papa, t'es bien gentil, mais j'ai envie de continuer avec Juan Carlos. Moi, j'ai peur pour le début de saison de Carlos, parce que son équilibre va être vraiment mis à mal. Et moi, ça me fait de la peine de voir les déclarations de Juan Carlos Ferrero, qui a l'air vraiment un peu too much.
Non, ça te semble pas.
Non, alors moi, j'ai une séparation avec un entraîneur qui m'a entraîné pendant 10 ans, de mes 10 à mes 20 ans. Et ça a été une des séparations les plus brutales de ma vie. J'ai vraiment pleuré comme une rupture amoureuse, comme le dit Ferrero. C'est vraiment quelqu'un avec qui on passe tout notre temps dans le tennis, l'entraîneur et l'entraîneur.
Il n'a pas de cœur, Flora.
Ont une relation très proche. Non, mais tout ça pour dire que ça m'étonne vraiment pas qu'il ait autant de mal à passer au-dessus.
Mais et Carlos, on l'a pas beaucoup entendu quand
non.
même.
Non, parce qu'il était sous sa couette en train de pleurer depuis deux semaines. Mais tout le monde est malheureux. Non, je crois pas, mais Carlos, il est obligé d'avancer et de se retourner à l'entraînement. Et de trouver un nouvel entraîneur, etc. David.
Alizé a soulevé. Moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet des GG d'ailleurs. Mmh. C'est la place des parents, père, mère, quelquefois, dans la carrière d'un athlète. Ouais. On se souvient de la maman de Surya Bonaly. Ouais. On se souvient
du père de Marion, Bartoli.
Du père de Marion, etc. etc.
La maman d'Adrien Rabiot.
Moi, je trouve que être sous la coupe de ses parents lorsqu'on est athlète, ça peut être dramatique. On peut les accompagner jusqu'à un certain âge, mais à un moment donné, il faut que les enfants s'envolent du nid, qu'ils fassent leur propre choix. Et là, ça peut être dramatique dramatique pour la carrière d'Alcaraz que de s'être coupé de ce lien, de ce binôme qui fonctionnait bien, puisqu'il a des résultats extraordinaires, le garçon. Donc la place des parents, les pères qui veulent tout gérer, ou les mères qui veulent tout gérer, l'argent, le truc, les sponsors, les entraîneurs, etc. Mais foutez-leur la paix, laissez-les vivre, laissez-les s'envoler du nid, laissez-les faire leur vie. Ils ont leur personnalité, c'est pas à vous de transposer votre vie que vous n'avez pas réussi, visiblement.
Ce sera l'objet potentiellement d'un prochain débat. C'est vrai, c'est bon. C'est un très bon sujet.
Oui, très, très intéressant.
Alors, on s'en fout pas. C'est l'événement basket ce week-end. Le All-Star Game France, match d'exhibition avec les meilleurs joueurs du championnat. Deux équipes face à face, une rassemblant les meilleurs joueurs français, l'autre les meilleurs joueurs étrangers. Certains s'en sont d'ailleurs plaints, comme Vassilis Panoulis, le coach de l'AS Monaco, arguant que le All-Star Game est très mal positionné à 4 jours d'un match important pour le club en Euroleague face au FC Barcelone. L'All-Star Game de basket, on s'en fout ou on s'en fout pas, Chris?
Je vais laisser.
Tu te mouilles pas ce matin.
Il va m'expliquer un peu en quoi consiste All-Star Game, parce que.
Tu t'en fous, tu t'en fous pas, Fred.
C'est le seul événement sportif de la journée. logiquement, je ne m'en fous pas.
Très bien, Alizé,
je m'en fous pas.
Les Harlem Globetrotters, c'est un peu pareil.
David,
c'est le même genre, non?
Moi, je m'en fous parce que le meilleur joueur, on le connaît, quoi.
C'est Wemby.
Ben oui, il n'aura pas besoin d'un énième match. Tout ça n'est qu'une histoire de fake.
Alors, on rappelle qu'on est All-Star Game en France.
Donc, il n'y a que des joueurs,
du championnat de France. Voilà, Fred.
Ouais, mais moi,
tout.
Je parle du principe.
D'accord.
Voilà. Le meilleur joueur de France, les spécialistes, et Fred le connaît. La meilleure équipe, il la connaît. Et faire un énième truc pour savoir qui, quoi, comment, je trouve que c'est une histoire d'organisateur,
c'est le principe
du pognon,
d'une exhibition, voilà. Effectivement, Fred.
Oui, enfin, on va remplir Bercy avec plus de 17 000 personnes qui vont déplacer pour voir les meilleurs joueurs du championnat de France et évoluer dans deux équipes, l'équipe monde avec beaucoup d'Américains, mais pas que, et de l'autre côté, les Français. Donc, on a la chance de voir beaucoup de ces excellents joueurs d'évoluer pendant un match. Il y a un concours à 3 points, il y a un concours des meneurs qui termine par du 1 contre 1, justement, et un concours de dunk qui sera très spectaculaire, comme il l'est tout le temps. C'est toujours très bien organisé. Il est considéré comme le deuxième plus grand et plus beau All-Star du monde, donc juste après les Américains. Donc on s'est inspiré au départ, mais on a pris pas mal d'avance maintenant. On propose même des choses un petit peu différentes, comme les 1 contre 1 dont je parlais tout à l'heure. Le jeu, c'est pas. Alors,
c'est une exhibition.
C'est une exhibition, exactement. Donc, on va voir des dunks, on va voir de
l'énergie. Après, les gens viennent pour ça.
Ils viennent pour ça. Mais on est ravis, justement, de pouvoir proposer ça pendant les fêtes, parce que c'est un peu la fête du basket et on est vraiment content de proposer
ça. C'est mieux que Sabalenka qui
arrive. D'accord, c'est un spectacle.
Exhibition, c'est ça que t'entends.
Ben, en fait, des deux côtés, c'est la même taille de terrain.
Fred, c'est déjà pas mal. C'est un spectacle, t'es d'accord?
Évidemment que c'est un spectacle. Oui, c'est un spectacle.
Voilà.
Mais t'as la chance de voir les meilleurs joueurs qui évoluent en France au même endroit, à une date où les jeunes sont en vacances, donc peuvent se déplacer. On fait le plein comme d'habitude. C'est toujours très bien organisé. C'est beau. C'est le seul événement sportif de la journée. Donc profitez-en.
C'est bien rendu. Fred Veil sera en commentaire sur RMC en plus.
Oui, exactement.
S'il n'est pas mort d'ici là.
Oui, s'il est toujours vivant d'ici là.
Essaye de survivre.
Allez, 9h50. 15h57 sur RMC. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants. On va se projeter sur l'année 2026. Que va-t-il se passer? Les GG vont sortir leur boule de cristal, sans oublier le dossier du jour. La CAN désormais programmée tous les 4 ans, compréhensible ou non. On en parle juste après ça. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.